Chapitre 20e, mes aventures politiques. J'étais deux fois candidat au Parlement. Qu'on ne me demande pas pourquoi, je serais empêché d'en donner une bonne raison. Assurément, je ne brûlais pas d'aller prendre place dans cette auguste assemblée, car les deux fois je visais des sièges que les gens autorisés considéraient comme hors d'atteinte, en quoi du reste il faillit avoir tort dans l'un des deux cas, alors qu'on m'en offrait de plus accessible. Quant aux élections de 1900, je me présentais dans la circonscription d'Édimbourg central. Peut-être cédais-je un peu de sentimentalisme. C'était le quartier de la ville où j'avais été élevé, où j'avais passé la plus grande partie de mon enfance. On le réputait la grande forteresse du radicalisme en Écosse, et l'emporter constituera un bel exploit. Bien que radical moi-même, sous bien des rapports, je savais que ne point pousser jusqu'au succès complet la guerre contre les bourgs serait une disgrâce nationale, voire peut-être un désastre impérial. Et c'était la question même qui allait se résoudre devant les électeurs. J'avais jusque dans les moelles le sentiment d'être sur terre pour l'accomplissement d'un grand dessein. Que ce dessein ne fût pas politique, je ne devais m'en convaincre qu'après expérience et contre-expérience, bien que jamais je n'ai pu me concevoir enchaîner un parti ni attribuer toutes les vertus à un groupe d'hommes. Ma double école ne fut pas perdue. J'affrontais les deux collèges électoraux les plus taquins de toute l'Écosse. L'odieuse et abusive coutume que l'on a dans ce pays de harceler le candidat sur l'estrade me valut d'acquérir un sang-froid, un mépris des interruptions et des clameurs qui m'affermirent pour la suite. Je me rappelle qu'une fois, à Howick, mon frère, le soldat, venu voir comment je me comportais en réunion publique, fut frappé de mon autorité sur l'auditoire. « Il serait curieux, Arthur, me dit-il, de découvrir que votre véritable carrière est politique et non littéraire. Elle ne sera ni l'un ni l'autre, lui répondis-je, elle sera religieuse. » Nous nous regardâmes, surpris, et tous deux nous éclatâmes de rire. Ma réponse, en effet, ne semblait rimer à rien, car rien, alors, n'indiquait une probabilité semblable. Curieux exemple de cette faculté prophétique dont nous sommes inconsciemment pourvus. À peine débarqué de l'Afrique australe, je me jetai dans la liste à Édimbourg. J'avais pour président de comité M. Cranston, depuis Sir Robert Cranston. J'allais à une petite séance préparatoire où, rompu de fatigue, j'écoutais débattre, à grand renfort de pour et de contre, mes vues sur chacune des questions vitales portées à l'ordre du jour. Tout finit par se régler à la satisfaction générale et l'on se mit en devoir de rédiger l'appel aux électeurs. Je continuais d'écouter, non sans quelque amusement. L'appel rédigé, prenant la parole, je dis « Puis-je vous demander, messieurs, qui aura la charge de tenir les promesses que vous faites ?»« Mais vous, bien entendu, » me répondit-on. « Alors, » répliquai-je, « mieux vaut sans doute que je les fasse moi-même. » Sur ce, je froissai le papier qu'on m'avait remis, saisis une plume et rédigeai mon programme. On lui fit bon accueil. Il m'eut gagné la victoire en dépit d'énormes chances contraires, et le fait est que dès le premier tour j'obtins plusieurs milliers de suffrages, sans une intervention bien imprévue. Ceux qui ont gardé le souvenir de l'élection me rendront témoignage que ce fut une passionnante affaire. Mon adversaire était un M. Brown, associé de la maison d'édition Nelson, qui possédait dans la circonscription une grande usine. J'arrivais du théâtre de la guerre. Je débordais de zèle pour l'armée. Je ne me ménageais en aucune façon. Je parlais dans la rue, monté sur des barriques ou sur n'importe quel tréteau de rencontre. Je tenais mille petites séances en plein air, outre mes grandes réunions du soir où se pressaient des foules tumultueuses. Je ne m'épargnais aucune peine. Mon adversaire n'était pas en lui-même formidable, mais j'avais contre moi l'omnipotente organisation d'un parti et la série ininterrompue de ses victoires. Ce n'était pas chose facile que de changer le vote d'un Écossais. Plus d'un se fut laissé persuader tout aussi vite d'abjurer sa religion. Malheureusement pour moi, j'étais décidé à ne rien dire ou faire qui me tînt au cœur, et cela impliquait pour la première fois dans l'histoire l'union de l'Irlande nord et sud. Le sud me cherchait querelle parce que, tout en me prononçant pour l'octroi de certaines libertés, je ne m'étais pas encore rallié au principe du gouvernement autonome. Le nord m'en voulait parce que je réclamais pour Dublin une université catholique. Ainsi les voix de l'Irlande me firent défaut. Lors d'un meeting que je tins dans une salle de Cowgate, qui est le quartier irlandais de la ville, je fus informé qu'on s'apprêtait à faire sauter la tribune. Il semble que ce fût vrai, mais par bonheur, je sus faire vibrer dans l'assistance des sentiments humains. Je réussis même à lui arracher des larmes en évoquant la rencontre des deux bataillons de fusiliers royaux de Dublin à Ladysmith. Aussi, lorsqu'apparut au bout de l'estrade un individu de mine patibulaire, écarisseur de son état, il fut accueilli par le silence. Il s'avança lentement et dit quelques mots sur le droit de parole. Je sentis que si mes amis et moi perdions notre calme, ce serait le signal d'une bagarre. « Allons, fiston, démarrez !» lui dis-je simplement. « Démarrez !» Et il démarra. Il s'enfuit par le côté opposé de l'estrade. Tout alla bien jusqu'au bout. À mesure qu'approchait le jour du vote, ma candidature devenait évidemment de plus en plus dangereuse. Mais je fus mis hors de combat, ce dont je me loue aujourd'hui, par la curieuse intervention à laquelle je faisais allusion tout à l'heure. Il y avait à Dunfermline un évangéliste fanatique, nommé Plimmer, qui s'attribuait dans la vie la mission spéciale d'empêcher l'arrivée des catholiques au Parlement. En conséquence, à la 11e heure, le soir d'avant le scrutin, tous les murs de la circonscription furent couverts de grandes affiches proclamant que j'avais reçu l'éducation des jésuites et qu'en fait ma candidature était une attaque contre l'Église d'Écosse, le Covenant, le catéchisme mineur, bref, contre tout ce qu'il y avait de cher au cœur écossais. Manœuvre très habile, dont il va de soi que le fanatique n'eût pas été en mesure de payer seul les frais, bien que je me refuse à soupçonner M. Brown d'en avoir eu connaissance. Ce fut un chagrin pour mes amis de voir les ouvriers s'attrouper autour de ces placards absurdes. « Affaire réglée !» s'écriait-on après avoir lu, en sorte qu'il me manqua quelques centaines de suffrages pour emporter le siège. Quand j'y songe, j'incline à regarder M. Plimmer comme un de mes grands bienfaiteurs. En changeant au dernier moment la direction de l'aiguille, il m'empêcha de m'engager sur une voie qui, peut-être, ne m'eût conduit à rien. Je n'aurais jamais pu être un homme de parti, et il ne semble pas que dans notre système politique il y ait place pour l'indépendance. Mon échec, tout d'abord, me navra. J'écrivis au Scotman une lettre où je définissais ma position religieuse et qui suscita, je crois, pas mal de commentaires. L'organisateur du parti, Sir John Boraston, m'adressa une lettre dans laquelle il me disait que si, après une lutte phénoménale, je n'avais pu enlever un siège, j'avais tout au moins, de l'avis général, contribué à la victoire des libéraux unionistes dans deux autres circonscriptions d'Édimbourg. Et il ajoutait que mes débuts dans la politique me présageaient de beaux succès prochains. Je ne me pressais pas d'en faire la preuve. Mais lorsqu'en 1905 fut posée devant les électeurs la question des tarifs douaniers, je crus devoir sacrifier à mes convictions. M. Tommy Shaw, comme on le nommait avant qu'il ne devint Lord Shaw, était l'un des radicaux les plus énergiques de l'Écosse. On le disait fermement implanté dans sa circonscription, laquelle englobait sous le nom commun de Bourg-Frontière les petites villes de Hawick, Galashiel et Selkirk, toutes adonnées au commerce de la laine et fort atteintes par la concurrence allemande. Il me sembla que, s'il y avait quelque part un bon terrain de combat pour les idées protectionnistes de M. Joseph Chamberlain, c'était ici, où le régime de la porte ouverte causait tant de pertes, tant de détresse. Mais pour juste que fût mon raisonnement, je comptais sans le conservatisme inné de l'Écossais, incapable de rajuster ses principes généraux à un cap particulier, noble trait, mais qui a parfois ses inconvénients dans la pratique. Cette fois, je ne me prodiguais pas seulement en effort, j'y allais de mon argent. Qui combat pour les autres doit engager jusqu'à sa dernière ressource. À tout ce que je risquais, j'aurais pu ajouter mon coup, car pour entrer dans la familiarité des gens, je pris part à ce qu'on appelle la course commune de Hawick. C'est une fête à l'occasion de laquelle tout le monde se donne vacances. Des cavaliers parcourent et définissent les limites de la commune. Le programme comporte notamment un galop ventre à terre sur la grande route. La distance à parcourir était d'environ un demi-mille. Les habitants du bourg, rangés tout au long en une double haie, stimulaient les coureurs en agitant des parapluies et des cannes. Je montai un cheval de chasse que je n'avais jamais vu auparavant et qui était plein de feu. Heureusement, cette monstrueuse épreuve sur route avait lieu vers la fin de la journée et notre chevauchée sur les confins de la commune avait tant soit peu calmé l'ardeur de ma bête. On le sait, je ne me pique pas d'être un solide écuyer. Toujours est-il que je faillis faire connaissance avec la barrière de péage. Tôt ou tard, il y aura quelqu'un de tué à ce jeu. Des chevaux s'y estropient chaque année. Après la course, vint la récitation d'une interminable ballade, accompagnée par un chœur de voix sonore, auquel les voisins du récitant battait la mesure en battant du pied. Comme il lui parut désobligeant que je n'en fisse pas autant, moi aussi je battis du pied en cadence, et mon amusement égala mon étonnement lorsque, de retour à Londres, je lus dans les journaux que j'avais dansé en public devant les électeurs. Anto Garwick m'avait à jamais guéri de ses courses communales. Une circonscription de trois villes a ceci de fâcheux que chacune est jalouse des deux autres, et que quoi qu'on fasse, on doit, pour n'en offenser aucune, le faire trois fois. J'en avais par-dessus la tête, et me sentis bien aise quand vint le jour du scrutin. Je pensais alors et continue de penser qu'un tarif mobile, ne fût-ce que comme instrument de marchandage, répondrait pleinement aux intérêts de l'Angleterre. Peut-être, alors, certains de ses rivaux cesseraient-ils de nous fermer leur marché tout en usant de la générosité que nous mettons à leur ouvrir les nôtres. Le système de Chamberlain était admirable. Il ne fut mis en échec que par une campagne de déformation et de mensonges dans laquelle la main-d'œuvre chinoise et la vie chère jouèrent un rôle capital. Devant les ruines d'une manufacture désaffectée, dans les bourgs frontières, je montrai comment elle avait été détruite par la concurrence allemande et comment, tandis que nous admettions ses produits en franchise, l'Allemagne levait des taxes sur les nôtres et dépensait l'argent ainsi gagné à construire des vaisseaux de guerre avec lesquels nous pourrions avoir un comté un jour. En guise de réponse à mes arguments, on étalait des caricatures en couleurs qui représentaient les Chinois travaillant à la chaîne dans les mines du Transvaal, où l'on m'opposait des sottises de même genre. Je luttais avec énergie, tellement que le dernier soir, je tins une réunion publique dans chacune des trois villes, pourtant séparées par des milles de routes accidentées. Exploit sans précédent, et qui ne s'est jamais renouvelé que je sache. Rien n'y fit, je fus battu, mais encore le parti adverse perdit-il plus de voix qu'en aucune autre circonscription d'Écosse. Ce qui me mortifia le plus, c'est que mon concurrent, Thomas Shaw, n'avait fait qu'une seule apparition chez ses électeurs et s'était contenté d'envoyer partout un délégué, en sorte que je m'étais trouvé dans le cas d'un boxeur contraint de s'escrimer contre le second de son rival et non pas contre ce rival lui-même. À quelques mois de là, j'eus la satisfaction mélancolique d'apprendre que le président du comité radical, si préoccupé du malheureux sort des Chinois au Transvaal, demandait la liquidation judiciaire en raison de la pression exercée sur le marché des laines par la concurrence étrangère. C'est une assez vilaine affaire qu'une compétition électorale, et néanmoins elle a ses bons effets. Je ne saurais mieux la comparer qu'à ces bains de boue que l'on dit salubres et purificateurs. Et cela est particulièrement vrai pour l'Écosse, où est porté à l'extrême l'art de turlupiner le candidat. Passe encore si, en l'interrogeant, on obéissait au désir légitime de connaître son avis sur telle ou telle mesure publique. Mais ce n'est là qu'un cas exceptionnel. Les questions dont on le larde à l'envi ne tentent qu'à l'ennuyer, à le faire paraître ou ignorant ou ridicule. Souvent, après avoir parlé une heure, il me fallait subir pendant une autre heure des questions plus stupides les unes que les autres. Mais j'avais fait en ce temps l'apprentissage de la tribune, et il m'arrivait de riposter durement. Je me rappelle un robuste gaillard me lançant, du fond de la salle, une question soigneusement préparée. J'avais parlé des représailles en matière de tarifs commerciaux. « Monsieur le candidat, me demanda-t-il, comment conciliez-vous vos représailles avec le serment sur la montagne ?» Je répondis, « On ne peut toujours dans la vie atteindre au plus haut idéal. Vous, personnellement, avez-vous vendu tous vos biens pour les donner aux pauvres ?» L'homme était connu en ville pour n'avoir rien fait de semblable. Un hurlement de joie accueillit ma réponse, qui le chassa de la salle. Il y a dans l'esprit écossais une disposition au sarcasme dont vous tirerez parti si vous savez le mettre dans votre jeu. Un autre souvenir qui me revient est celui d'un grave personnage me tendant, d'une loge de côté, dans le théâtre où je parlais, un pain enfilé comme une tête de mort au bout d'une perche. C'était, je suppose, m'accuser de vouloir élever le prix du pain. Il était difficile de paraître ne pas voir le geste et embarrassant de le relever. Un de mes partisans s'en chargea. « Allez le bouffer chez vous » criait-il en patois du pays. Habituellement, l'interpellateur croit devoir se donner une sorte de voix rêveuse et impersonnelle. Parlant de la guerre du Transvaal, je venais de dire avec animation « Qu'est-ce qui la paiera, cette guerre ?»« Je m'en bats l'œil, » répondit, comme de très loin, un individu mal vêtu, à côté contre un des murs latéraux. Et toute la salle de rire, comme je fis moi-même. Une des plaisanteries qui interrompirent mon discours resta pour moi lettre morte. Je disais le respect de soi et la mise décente qui caractérise l'ouvrier d'usine américain. « Allez voir chez Brown !» me cria la voix rêveuse. Je ne sais pas encore si l'usine Brown était fameuse pour son manque de tenue ou pour le contraire, mais l'observation provoqua dans l'assistance une hilarité convulsive. Les radicaux venaient toujours en nombre à mes meetings, de sorte que le plus souvent, sans doute, je m'adressais à des publics hostiles. Mais comme leurs candidats ne se multipliaient pas, je leur offrais en somme leur seule occasion de se distraire. Bien avant la réunion, la salle, regorgeante de monde, retentissait de cris contraires, accompagnés de chants ribauds et d'appels à la lutte. Je croyais, en approchant, entendre le zoo à l'heure du repas des pensionnaires. Souvent le cœur me défaillait à entendre ce vacarme, et je me demandais pourquoi diable je me mettais dans une situation pareille. Mais sitôt que j'avais abordé la tribune, mon sang batailleur s'échauffait, aucune clameur ne m'intimidait plus. Je me formais pour l'avenir, ce dont je ne m'avisais pas dans le moment. Ce qui me fatiguait le plus, c'était les libertés personnelles que prenaient envers moi les gens vulgaires, et par là, je n'entends nullement les pauvres gens, chez qui je trouvais d'ordinaire des sentiments d'une très grande délicatesse. Je ne prends de liberté avec personne, et mérite quand on en prend avec moi. Un candidat ne peut dire à cet égard tout ce qu'il pense, car son parti risque d'en souffrir. J'étais presque toujours sur le qui-vive, dans la crainte de blesser qui que ce fût. Au cours d'une campagne de 3 jours, il m'arriva de supporter 1000 avanies avec une patience exemplaire, mais j'étais à bout de nerfs. Avec ma 2e campagne électorale, finit ma carrière politique. J'avais complètement exploré le terrain, je m'étais assuré que le chemin de ma vie n'y passait pas, et cependant, j'étais intimement convaincu que j'avais à servir quelque part. On aime à se sentir une petite influence sur les affaires de son époque. Si je n'ai pas été un homme public, j'ai la consolation de me dire que plusieurs pamphlets et de nombreuses lettres publiées dans la presse ont pu être d'un plus grand poids pour le bien commun, en ce que nul intérêt de parti ne faussait mon jugement. Ainsi s'achève ma vie aventureuse par Arthur Conan Doyle.